Bonjour Gilles, merci, les 9h10 à Washington. Déjà près de 55 millions d'Américains vaccinés contre le Covid avec les deux doses requises. Le succès d'une campagne de guerre menée tambour battant, décryptée avec notre invité du jour. Avant cela, on évoquera la nouvelle méga enveloppe du président américain pour rénover les infrastructures. En Haïti, le Premier ministre reconnaît des erreurs stratégiques dans l'opération anti-gang de Village de Dieu. On sera à Port-au-Prince avec Franz Duval du Nouvelliste et puis le journal de l'Outre-mer, bien sûr. En Martinique, aujourd'hui, Serge Massot, la campagne vaccinale accélère.
Avec l'ouverture du premier vaccinodrome du côté du Lamantin et plus de 400 Martiniquais vaccinés dès le premier jour.
À tout à l'heure, Serge, et bienvenue à tous.
It's not a plan that tinkers around the edges. It's a once in a generation investment.
Ce n'est pas un plan qui tourne autour du pot, dit Joe Biden. Il s'agit de l'investissement d'une génération en Amérique, déclaré hier le président des États-Unis qui a dévoilé son plan à 2000 milliards de dollars d'investissement dans les infrastructures. Nouveau grand chantier de son début de mandat. Bonjour Harim Leipold.
Bonjour Michael, bonjour à tous.
Il s'agit notamment de rénover plus de 30 000 kilomètres de routes ou bien de réparer 10 000 ponts. Un plan, selon le président, qui permettra à la création de millions d'emplois. Évidemment, la presse commente largement.
Oui, le New York Times se montre très très impressionné par ce plan. Joe Biden part comme une fusée, écrit le journal. C'est un président qui voit les choses en grand, estime le New York Times, qui ajoute que la plupart des Américains ne peuvent même pas s'imaginer ce que représente une telle somme de 2 000 milliards de dollars. Ce programme pourrait changer l'avenir des États-Unis, écrit le Washington Post, qui soutient également cette initiative. C'est un choix qui montre clairement que le gouvernement fédéral compte jouer un rôle plus important. Un choix qui est soutenu d'ailleurs par une majorité d'Américains. Mais plus encore, poursuit le Washington Post, ce plan d'investissement répond à des vrais besoins, des besoins que même les républicains ne peuvent pas nier, car eux aussi, sous la présidence de Donald Trump, souhaitaient investir dans les infrastructures.
Historiquement, les infrastructures ont été une entreprise bipartisane, bien souvent menée par des républicains, j'ai peut-être tort, mais je ne pense pas qu'on puisse trouver des républicains aujourd'hui qui ne pensent pas qu'il faille améliorer les infrastructures.
Et voilà, Joe Biden, on l'entend, qui lance en quelque sorte un appel à ses opposants républicains à le soutenir dans l'adoption de ce plan. C'est un pari que fait le président américain Harim Leipold, dont on vous retrouvera dans un petit moment. D'abord, les paris, Joe Biden, il s'y connaît en la matière. Lui qui voulait injecter 100 millions de doses de vaccins contre le Covid dans les bras des Américains en 100 jours de présidence. Cela fait un bon moment déjà que l'objectif a été atteint. Alors il y a quelques jours, nouveau pari, 200 millions de doses en 100 jours. Et cette promesse.
At least 90% of all adults in this country will be eligible to be vaccinated by April the 19th.
90% des adultes américains seront éligibles à la vaccination d'ici le 19 avril, se réjouissait lundi Joe Biden, avec plus de 2 800 000 doses injectées en moyenne chaque jour. Pourquoi ne pas être optimiste? Bonjour Sarah Rosenblum.
Bonjour.
Doctorante à l'Université du Michigan, spécialiste de la santé publique américaine. Vous êtes avec nous en direct de Chicago. Vous suivez évidemment cette campagne vaccinale. Ces chiffres ont de quoi faire pâlir d'envie de nombreux pays, notamment ici en Europe. C'est un succès qui tient en fait à une véritable campagne de guerre, une campagne militaire. Est-ce qu'on peut la qualifier comme ça?
Oui, tout à fait. Vous avez raison de parler de succès, puisque 143 millions de doses vaccinales ont été injectées aux États-Unis entre le 14 décembre 2020 et le 29 mars 2021, et c'est un succès qui tient à plusieurs choses. D'une part, à l'opération Warp Speed, qui avait été lancée par l'administration Trump en mai 2020. Donc c'est un programme de partenariat public-privé qui était financé par le gouvernement fédéral à hauteur de 14 milliards de dollars et qui avait pour objectif d'inciter les laboratoires pharmaceutiques à accélérer la mise au point d'un vaccin contre la Covid. Vous avez également, aux États-Unis, une organisation logistique de la campagne vaccinale qui est assez efficace, puisque les États-Unis ont mis en place 21 méga-centres de vaccination, qu'on appelle plus communément en français des vaccinodromes, et ils travaillent en partenariat avec plusieurs acteurs, dont FEMA, qui est l'agence fédérale chargée des secours d'urgence, dont également l'armée, les services municipaux, les départements de santé publique étatiques et locaux. Le gouvernement fédéral a mobilisé des parcs d'attractions, des parkings, des stades de football américains, même des églises, et les ont transformés en centres de vaccination temporaires, gérés par les hôpitaux, les cliniques, les départements de santé publique et locaux. Et à partir du mois d'avril, des points de vaccination mobiles vont également être mis en place pour permettre aux gens de se faire vacciner depuis leur voiture.
Donc finalement, si je vous suis, les États-Unis contrôlent toute la chaîne de bout en bout et à commencer par la production. Le pays a des sites de production où les vaccins sont mis au point. Ça, c'est un avantage que d'autres pays n'ont pas.
Tout à fait, oui, c'est un avantage assez important puisque les États-Unis, vous venez de le dire, produisent sur leur sol des vaccins, notamment Pfizer, et peuvent en acheminer, les acheminer et en assurer la distribution depuis leur sol assez facilement. Les États-Unis ont également mis en place des partenariats publics-privés assez tôt pour concevoir les vaccins, pour en assurer la distribution au plus près des Américains. Et je le disais à l'instant, le gouvernement fédéral, qu'il s'agisse de l'administration Trump et maintenant Biden, ont mobilisé de manière assez précoce l'armée, les agences fédérales, les départements de santé publique étatiques et locaux pour vraiment harmoniser la stratégie de distribution à l'échelle du pays.
Oui, aujourd'hui, Joe Biden s'attribue les lauriers de cette réussite. Il faut en tout cas mettre honnêtement au crédit de l'administration Trump donc le lancement de cette opération Warp Speed. Qu'est-ce que Joe Biden justement lui a apporté de plus dans ce contexte et ce cadre-là de Warp Speed ?
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les recherches de Pfizer n'avaient pas bénéficié des financements de l'opération Warp Speed sous l'administration Trump. Et l'un des avantages, je dirais, de l'administration Biden, c'est d'avoir élargi cette opération et d'avoir accordé des financements à Pfizer, qui au départ n'en avait pas bénéficié. Et c'est également, je dirais, d'assurer un rapprochement des autorités fédérales, des autorités étatiques et locales pour vraiment optimiser la distribution des vaccins, ce que Trump n'avait pas fait initialement puisqu'il s'était un peu désengagé de ce que faisaient les États et les acteurs locaux.
En tout cas, malgré la volonté politique, pas de succès sans mobilisation des Américains eux-mêmes prêts à se faire piquer. Est-ce que ce succès vaccinal s'explique aussi peut-être par le grand nombre de victimes aux États-Unis ? Est-ce que ça agit comme une motivation pour les gens à aller se faire piquer ?
Alors, ce qui explique la forte mobilisation des Américains, c'est, vous avez raison, en partie, le nombre de victimes qui est très élevé. On dénombre un peu plus de 551 000 victimes du coronavirus aux États-Unis. Mais je dirais, c'est également le désir de renouer avec une vie normale. C'est le fait de constater que les vaccins sont fiables et efficaces contre la Covid-19 et que les effets secondaires sont peu fréquents et sont assez limités. Et enfin, c'est un élément aussi important, c'est le fait que le gouvernement fédéral assure la gratuité des vaccins pour tous, quel que soit le statut migratoire, le statut professionnel, pour toute personne résidant aux États-Unis.
Malgré tout, cette couverture vaccinale, elle n'est pas la même partout. D'abord d'un point de vue géographique, mais aussi d'un point de vue communautaire, si je puis dire. Il y a des inégalités sociales, raciales aussi très importantes.
Alors ça, c'est tout à fait vrai. C'est une particularité du système de santé américain. Mais la bonne nouvelle, c'est que la proportion des anti-vaccins est en baisse constante. Vous aviez 50% des Américains qui se disaient hostiles à la vaccination cet été, contre 30% au 31 mars 2021. Mais ce scepticisme face au vaccin, il diffère selon les communautés, selon l'orientation politique. Les Afro-Américains, c'était les plus réticents au début de la campagne et maintenant ne sont que 20% à refuser la vaccination, contre 28% des Blancs, 37% des Hispaniques. Et les partisans de Donald Trump sont encore très largement hostiles à la vaccination. 47% refusent de se faire vacciner à l'heure actuelle. Mais ce sont des chiffres en diminution constante.
Une résistance politique.
Oui, tout à fait. Et à l'heure actuelle, les populations défavorisées, les minorités ethniques sont sous-représentées parmi les personnes vaccinées. Et les villes, les départements de santé publique, les gouverneurs d'État ont conscience de ces enjeux. Ils essayent d'assurer une forme d'équité dans l'accès au vaccin. Donc ils vont par exemple tenir compte du quartier d'origine lors de la prise de rendez-vous. Ils vont également mobiliser les acteurs associatifs et religieux qui jouent le rôle de relais, de messagers auprès de leur communauté. Et ils veulent également rassurer les personnes en situation irrégulière en leur rappelant que la police migratoire, ICE, n'est pas présente dans les centres de vaccination et ne procède à aucun contrôle.
Pour convaincre donc les Américains d'aller se faire vacciner. Malgré tout, c'est peut-être le revers de la médaille, on terminera par ça, Sarah Rosenblum. Les cas de contamination continuent de grimper à travers tout le pays. Comment est-ce qu'on peut se l'expliquer ?
On peut l'expliquer par une espèce de relâchement des mesures de distanciation sociale, des gestes barrières, des comportements individuels. C'est vrai qu'on se trouve dans un climat peut-être un peu de frénésie ou d'euphorie où les gens commencent à renouer avec une vie normale, mais disons qu'ils ils évitent de porter le masque. Et ça, c'est une chose assez préoccupante. C'est ce que Rachel Walensky, qui est la nouvelle directrice du CDC, elle a parlé de désastre imminent et elle met en garde la population américaine contre le risque d'une quatrième vague de coronavirus. Elle a expliqué que la part de la population vaccinée est importante, mais elle n'est pas encore suffisante pour empêcher un nouveau pic de contamination si les Américains cessaient de respecter les gestes barrières et la distanciation sociale.
Et Joe Biden, en effet, a appelé lundi ses concitoyens à porter le masque, à garder les distances et à respecter donc toutes les mesures sanitaires possibles. Sarah Rosenblum, merci beaucoup, spécialiste de la santé publique américaine. Merci pour votre éclairage. Harim Lippold, vous êtes toujours avec nous. Un autre sujet fait la une aujourd'hui aussi aux États-Unis. Les patrons de grandes entreprises américaines sommés de réagir au sujet de la nouvelle loi électorale dans l'État de Géorgie. C'est un texte qui, selon ses détracteurs, limiterait l'accès aux urnes, notamment pour les Afro-Américains.
Oui, les patrons des groupes comme Coca-Cola ou Delta Airlines qui ont leur siège, vous savez, à Atlanta, se sont finalement exprimés sur cette loi promulguée jeudi dernier par le gouverneur républicain de Géorgie. Des organisations de défense des droits civiques leur avaient demandé effectivement de prendre position, écrit la chaîne CNN sur son site. Hier mercredi, le PDG de Delta Airlines, dans un communiqué à ses employés, a vivement critiqué cette loi qui, par exemple, réduit le nombre de boîtes aux lettres des destinés au vote par correspondance dans les quartiers afro-américains. Mais est-ce que ces prises de position suffiront pour combattre les tentatives des républicains de restreindre la possibilité de vote des minorités, s'interroge CNN. Selon les démocrates, ce n'est pas le cas. Les grandes entreprises devraient montrer qu'elles soutiennent à 100% deux projets de loi démocrates au Congrès visant à interdire la plupart des mesures prises par les législateurs en Géorgie, estiment les démocrates.
Enfin, une scène dramatique à Rime, captée par une caméra de surveillance. On est à la frontière avec le Mexique, une scène qui résume à elle seule le drame humanitaire des migrants.
Oui, exactement. On y voit un passeur assis sur un tronçon de mur de 4 mètres de haut qui laisse glisser le long de la paroi deux petites filles originaires d'Équateur sur le sol américain. Les fillettes âgées de 3 et 5 ans ont été récupérées par les agents de la police des frontières. Le passeur avait déjà pris la fuite et le ministre chargé de la sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, a réagi dans un communiqué publié sur le site de la chaîne NBC qui a posté également la vidéo, tout comme le site du journal mexicain Milenio. Le ministre dénonce Michael, ces passeurs qui profitent de la détresse des parents et rappelle que ces dernières semaines, plusieurs enfants sont morts en tentant de traverser la frontière vers les États-Unis. Et quant aux jeunes équatoriennes, elles ont été amenées au poste de la police des frontières de Santa Teresa où elles reçoivent actuellement des soins médicaux.
Harim Lippold, la presse, c'est comme chaque jeudi, c'est aussi du côté d'Haïti.
Le journal d'Haïti et des Amériques.
Et c'est avec Franz Duval, bien sûr. Bonjour Franz.
Bonjour Michael.
Rédacteur en chef du Nouvelliste avec nous. Et on revient d'abord sur la conférence de presse donnée hier par le Premier ministre. Il a fait un point, Joseph Jout, sur l'opération du 12 mars dernier, l'opération Tiganga, village de Dieu. Et le moins que l'on puisse dire, Franz, c'est qu'il a fait des révélations surprenantes.
Tout à fait. Le Premier ministre a parlé longuement. Il a commencé par expliquer que l'opération avait été bien planifiée sur les plan d'information, sur le plan tactique, sur le plan de l'intelligence. Toutes les conditions étaient réunies pour résoudre le problème de Village de Dieu une fois pour toutes, selon ce qu'a indiqué le Premier ministre. Cependant, il a continué pour dire qu'il a constaté, dans le premier rapport qu'il a reçu, qu'il y a eu des erreurs stratégiques dans l'opération, que des ordres n'ont pas été donnés à temps, ce qui a poussé les policiers à tomber dans le piège. Beaucoup de consignes de la chaîne de commandement n'avaient pas été appliquées à la lettre sur le terrain. Le Premier ministre a été même plus loin, il a dit qu'il y a eu de la rétention de renseignements et les informations n'ont pas été communiquées à temps. L'équipe qui devait secourir les policiers en difficulté n'est pas arrivée à temps non plus. 21 policiers impliqués dans l'opération, 4 ont été tués et hier, le Premier ministre a fini par admettre qu'il y avait un cinquième qui est toujours porté disparu. Alors, il faut dire que le Premier ministre a exigé l'approfondissement de l'enquête. Il attend toujours le rapport de la police nationale d'Haïti. Pour le moment, seul l'inspecteur général Carl-Henri Boucher, directeur des renseignements généraux de la police nationale d'Haïti, a été sanctionné. Il est placé en isolement à l'inspection générale depuis déjà 2 semaines.
Voilà donc pour cette conférence de presse qui suscite des questions. Franz, tout autre sujet, le docteur Jean-William Pape qui rejoint le conseil scientifique de l'OMS, on en a parlé. Haïti s'en réjouit.
Tout à fait, et la nomination avait été annoncée il y a déjà quelques mois. Il faut dire que c'est seulement en ce mois de mars que l'OMS a finalisé la composition du conseil. Le conseil, c'est un conseil de 9 membres. C'est le docteur Pape et 8 autres scientifiques, parmi lesquels 2 prix Nobel. Haïti s'en réjouit parce que le docteur Pape est une sommité ici. Il avait été le pionnier dans la lutte contre la diarrhée infantile, pionnier dans la lutte contre le sida, contre la tuberculose, contre le choléra en Haïti. Et il était le président du conseil scientifique dans la lutte contre la COVID-19. Et à chaque fois, il rend les Haïtiens un peu plus fiers avec ses accomplissements.
Enfin, France, sur une note peut-être un peu plus positive, racontez-nous comment les Haïtiens s'apprêtent-ils à passer les vacances de Pâques qui commencent ce jeudi chez vous?
Alors, en Haïti, on n'est pas confiné. Enfin, pas à cause de la COVID-19, mais on est plutôt confiné à cause des raisons de sécurité. Traditionnellement, beaucoup de gens vont en province, ceux qui le peuvent vont à la mer, mais je dirais que les vacances de Pâques 2021 seront surtout des vacances qui vont se passer à la maison, particulièrement dans la région métropolitaine de Port-au-Prince où les gens sortent de moins en moins. On va manger, on va boire, on va fêter tranquillement et en province, il y aura les fêtes de Rara. C'est un carnaval populaire qui permet à la population de manifester sa joie, de changer de période.
Alors on vous souhaite à vous Franz et puis à tous nos auditeurs haïtiens de bonnes vacances. Pascal, tout ça est à lire dans les pages du Nouvelliste à Port-au-Prince comme à Fort-de-France. Il est 9h26.
Le journal de l'Outre-mer.
Avec Serge Massot, que l'on retrouve la Martinique. Serge met un coup d'accélérateur à sa campagne vaccinale.
Oui, bonjour. Un coup d'accélérateur grâce au vaccinodrome installé depuis hier au Palais des Sports du Lamentin. 1300 rendez-vous ont été pris en 24 heures. 463 personnes ont été vaccinées dès la première journée. Le scepticisme des Martiniquais face au vaccin semble levé. Le reportage de Salomé Martin.
Depuis 7h30, les vaccinations s'enchaînent le long de 2 fils. Prise de température et contrôle d'identité, questionnaire à remplir, injection puis enregistrement du vacciné. Le dispositif permet d'administrer le vaccin à la chaîne en quelques minutes. Un flux continu qui semble contredire le climat sceptique de ces derniers jours.
J'avais quelques appréhensions, mais j'ai dû surmonter. Il y a une très bonne organisation et puis il y a des gens pour nous guider, nous orienter. Donc ça a été assez rapide. On ne se sent pas du tout perdu et on est rassuré surtout.
Face aux craintes que peuvent avoir les Martiniquais concernant le vaccin, le maire du Lamentin, David Zobda, tient à rappeler l'urgence de lutter contre l'épidémie et la récente hausse des cas.
J'entends toutes les remarques qui sont formulées. J'entends aussi des arguments qui sont liés à des affabulations sur la potentielle manipulation, sur des fake news. Moi, je veux bien entendre tout ça, mais nous avons des Martiniquais qui meurent. Nous avons plus de 600 cas aujourd'hui recensés dans la semaine. Les urgences sont saturées. Et nous avons maintenant des compatriotes qui sont dans les couloirs et qui attendent. La seule alternative, c'est le vaccin. Donc j'encourage tous les Lamantinois et tous les Martiniquais à se faire vacciner.
Le vaccinodrome fonctionne 7 jours sur 7 et sera ouvert pendant le week-end pascal. Il devrait également être opérationnel jusqu'au mois d'août.
En Guadeloupe, la circulation du virus semble se stabiliser avec 317 nouveaux cas de Covid-19 en une semaine et 5 décès. De nouvelles mesures de restriction entrent en vigueur ce vendredi. Couvre-feu avancé à 20h. Rassemblements familiaux et festifs annulés. Offices religieux adaptés. Bref, c'est un week-end pascal sous surveillance. Ce qui s'annonce. Le préfet de Guadeloupe, Alexandre Rochat.
Ce week-end de Pâques, c'est un week-end à risque parce qu'on sait qu'ici, c'est un week-end festif, habituellement. On peut vivre Pâques en allant au culte, en se retrouvant en famille, mais en faisant très attention. On ne se retrouve pas à plus de 6, si possible. On évite de se regrouper, évidemment. On reste en distanciation. On porte son masque quand on se retrouve. Et si on doit participer à des déjeuners ou à des dîners, eh bien, il faut les faire dehors. Pas de pique-nique sur les plages et en bord de cours d'eau. Et puis, on a abaissé le couvre-feu pour justement éviter aussi que les gens ne soient tentés de rester dans des endroits à fêter Pâques au-delà du raisonnable. On va mettre en place des contrôles qui vont nous permettre de surveiller notamment les zones dans lesquelles on sait qu'il y a des concentrations. Donc, il y aura beaucoup de bateaux qui seront à l'eau, des bateaux de l'État, des forces de police, des forces de gendarmerie, mais aussi d'autres services comme les douanes qui vont participer à ces contrôles. On va mettre aussi beaucoup de patrouilles à pied qui vont aller le long des cours d'eau et le long des rivières. Et puis on mettra aussi en l'air des hélicoptères qui permettront de surveiller les coins les plus reculés.
Et puis sachez qu'en Guyane, le parquet a décidé de classer sans suite la plainte d'Albert Tarsi. Albert Tarsi, c'est ce carnavalier qui avait été mordu par un chien de la brigade cynophile de la police nationale lors d'un rassemblement festif, c'était en janvier dernier. Eh bien, l'enquête de l'inspection générale de la police nationale considère que ce carnavalier était agressif et alcoolisé et que c'est son comportement qui aurait provoqué l'attaque du chien. C'est la fin de ce journal. Bonne journée.
Merci beaucoup Serge Massot, à vous et aux équipes de La Première. Ainsi se referme notre rendez-vous d'Haïti et des Amériques réalisé aujourd'hui par Claude Battista. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain sur RFI.
La deuxième édition de Tram est lancée.